Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, la plainte déclarant douane et autres opérateurs économiques de Béni, il dénonce la hausse du coût de la déclaration des marchandises, particulièrement avec l'introduction d'une nouvelle imposition dite taxe garantie santé. Ils estiment que cela risque d'entraîner une hausse de prix de biens alors que la population vit déjà difficilement. Initiative Mission 300 et Grand Inga, deux projets au centre des discussions jeudi à New York entre la première ministre souminois et Anna Baird, directrice générale des opérations du groupe de la Banque mondiale. C'est dans le cadre d'une réunion consacrée au renforcement du partenariat stratégique entre l'institution financière et la RDC. Nous recevons aujourd'hui le député national du Sud-Kivu, Olive Moudekerezana Megabe. Il vient de participer à la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau au Maniema. Il donne quelques orientations pour matérialiser la relance agricole dans cette province. Avant de développer ces titres, sachez d'abord que le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce le début effectif de la mise en œuvre du dispositif d'accueil temporaire de ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis. Dans un communiqué publié hier 17 avril à Kinshasa, les autorités indiquent qu'un premier groupe de 15 personnes est arrivé hier vendredi dans la capitale, ce qui marque ainsi le lancement de la phase opérationnelle. L'exécutif précise que ce mécanisme est strictement temporaire et ne constitue ni une installation durable, ni une relocalisation permanente sur le territoire congolais. Les bénéficiaires sont admis sous titre de court séjour dans le respect de lois nationales et des engagements internationaux du pays. Le gouvernement souligne enfin que l'accueil et la prise en charge sont financés par les États-Unis et réaffirme en même temps son attachement aux principes d'humanité, de solidarité et de souveraineté nationale. Madame, Monsieur, bienvenue en cette édition du journal. Nous parlons économie. D'abord au Nord Kivu, l'association congolaise des commissaires agréés en douane et opérateurs économiques de la ville de Béni dénonce l'augmentation du coût de la déclaration des marchandises consécutive à une mesure du gouvernement congolais. Cette structure parle d'une nouvelle taxe nommée taxe garantie santé appliquée notamment aux matériaux de construction et à d'autres produits de première nécessité. Ces opérateurs économiques craignent une flambée généralisée de prix sur le marché local, avec des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des populations, cela alors que celles-ci sont déjà éprouvées par des décennies de conflits armés dans la région. Eugène Kakule Matembela, président de l'Association congolaise des commissaires agréés en douane au Nord Kivu, explique ce qu'il en est dans ses propos recueillis par Marc Marufimbo.
Alors, on a constaté une nouvelle apparition d'une taxe qui est perçue dans le cadre du service de santé et hygiène. Malheureusement, cette taxe qui a été piquée sur les produits de première nécessité. Nous craignons effectivement la flambée de prix dans tous les secteurs parce que ça ne concerne pas seulement les produits de première nécessité. Aujourd'hui, c'est le carburant. On a vu aussi du côté des exportateurs le Kenguina qui a été frappé de 7,5 dollars par tonne. Tous les secteurs de la vie économique qui sont touchés par les nouvelles taxes. C'est leur demander de se ressaisir parce que, vous savez, trop de taxes tient l'imbo. Nous en avons assez avec les taxes. On ne peut pas construire le pays seulement avec les taxes. Il y a aussi une autre manière de mobiliser les recettes sans multiplier les taxes. C'est cela que nous allons leur dire et surtout que ça touche les secteurs qui mouvementent même la vie de la population. Nous sommes dans une zone où le pouvoir d'achat de la population est tellement bas. Ça vaut de la peine que les autorités aient regarder sur la population qui vit dans la province du Nord Kivu, compte tenu de sa situation particulière que vous connaissez.
Sachez qu'aucune explication officielle n'a encore été fournie par les autorités compétentes sur l'instauration de cette nouvelle taxe. Toutefois, les opérateurs économiques et les déclarants en douane prévoient de rencontrer l'autorité provinciale à ce sujet avant d'envisager éventuellement d'autres actions. Et dans la même ville de Béni, les prix de certaines denrées alimentaires de base connaissent une hausse. Au marché central de Kiloqua, par exemple, la pomme de terre et la viande de bœuf figurent parmi les produits dont les prix ont fortement augmenté ces derniers mois. Et cela impacte directement le pouvoir d'achat des ménages. C'est un reportage de Antoinette Nyongoni.
Au marché central de Kiloqua, la hausse du prix de la pomme de terre est bien visible sur les étals. Les kilos se vendent désormais à 2500 francs contre 900 francs il y a quelques mois. Le vendeur évoque une baisse de la production et la présence d'insectes dans les champs. Cette commerçante explique.
Il y a une augmentation des consommateurs de la pomme de terre et ici nous ne pouvons plus beaucoup récolter. Il y a beaucoup d'insectes qui attaquent les cultures dans les champs. Avant, un kilo coûtait 900 francs, mais aujourd'hui, c'est 2500 francs, le prix actuel.
Du côté de la viande des bœufs, les prix sont également en nette augmentation. Les bouchers parlent notamment de la hausse des taxes et des conditions difficiles d'approvisionnement.
Le prix de la viande est en hausse à cause de l'appréciation du franc congolais, de la multiplication des taxes et aussi de la sécheresse. La viande que nous vendons vient de l'Ouganda en passant par la frontière de Kasindi. Avant, un kilo coûtait 10 000 francs, mais aujourd'hui, c'est 15 000 francs.
Face à cette situation, les consommateurs adaptent leurs habitudes alimentaires, réduisant parfois leurs achats. Beni, Antoinette Nyongoni pour Radio Okapi.
Merci Antoinette. Avant de quitter cette page, sachez que de nouvelles structures de prix de produits pétroliers ont été adoptées jeudi à Kinshasa par le comité de suivi des prix de produits pétroliers, une structure gouvernementale. D'après ses animateurs, cette décision intervient en raison de la guerre au Moyen-Orient. Dans la zone ouest, le prix du litre du gasoil augmente de 205 francs congolais. Il passe de 2430 à 2635 francs. Celui de l'essence prend 200 francs congolais de plus. Il est relevé de 2440 à 2640 francs. Pour la zone sud, les prix à la pompe sont fixés à 3930 francs congolais le litre pour l'essence et 4435 francs pour le gasoil. S'agissant de la zone est, le prix du litre d'essence revient désormais à 4400 francs congolais, tandis que celui du gasoil est établi à 5600 francs en congolais. Le séjour américain de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka est marqué par plusieurs rencontres avec de hauts responsables gouvernementaux et des dirigeants d'organisations internationales sur marche des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La chef du gouvernement s'est entretenue jeudi avec Anna Biert, directrice générale des opérations du groupe de la Banque mondiale. C'est dans le cadre d'une réunion consacrée au renforcement du partenariat stratégique entre l'institution financière et la République démocratique du Congo. Que retenir à ce sujet, Elise Kavira?
Cette séance de travail a permis de faire les points sur les priorités d'intervention de la Banque mondiale en appui aux politiques publiques du gouvernement souminois, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, considérés comme des leviers essentiels de transformation économique et sociale. Deux projets structurants ont été largement abordés. L'initiative Mission 300 et le projet Grand Inga, tous deux au centre de la stratégie d'électrification de la République démocratique du Congo. Ces initiatives visent à accélérer l'accès à l'électricité à l'échelle nationale, notamment en milieu rural, à travers une combinaison des solutions centralisées et décentralisées. S'agissant de Mission 300, c'est un partenariat stratégique porté par le groupe de la Banque mondiale et ses partenaires, visant à connecter des millions de personnes à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030. La République démocratique du Congo figure parmi les pays prioritaires pour la mise en œuvre de cette initiative, aux côtés notamment du Gabon, de l'Éthiopie et du Nigeria. La problématique de l'accès à l'eau potable a constitué un autre axe majeur de la réunion. Le gouvernement souminois a réaffirmé son ambition d'atteindre 60% d'accès à l'eau potable d'ici 2035 à travers une réforme en profondeur du secteur et une mobilisation accrue des investissements.
Nous sommes au Kasaï central à présent. Trois personnes ont trouvé la mort en l'espace de 5 jours de la rivière Lulua dans le territoire de Luisa, précisément sur l'axe Luisa-Monedetu. À l'origine de ces drames, les plus récurrentes qui s'abattent dans la région, elles ont provoqué des inondations submergeant la passerelle érigée sur la rivière. La société civile locale indique que la circulation des personnes et des biens est devenue difficile. Elle craint d'autres dégâts dans les jours à venir. Elle appelle ainsi le gouvernement central à intervenir en urgence pour construire un pont sur cette rivière. Des détails avec André Katendengalamouloumé.
D'après nos sources sur place, les pluies diluviennes qui s'abattent dans la région ont entraîné une montée des eaux de la rivière Lulua sortie de son lit. Cette situation a causé la mort par noyade d'un homme dans le groupement des Anamuyero ainsi que de 2 autres personnes dans le groupement des Anakajimbi Kachuru. Ces personnes sont mortes au moment qu'elles traversaient la rivière. Paulin Kongolonsaka, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans le territoire de Luisa, appelle le gouvernement central à intervenir en urgence. urgence pour construire un pont sur cette rivière. Selon lui, cet ouvrage faciliterait la circulation sécurisée des populations sur cet axe routier reliant les territoires de Luisa à la ville de Mouenaditou en passant par la province de Lomami. Après avoir constaté le danger, l'administrateur du territoire de Luisa a interdit la traversée de la rivière jusqu'à la décrue des eaux. En attendant, la population reste confrontée à de nombreuses difficultés. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
À Kindu, la coordination provinciale du Centre congolais de lutte anti-mine du Maniema a célébré jeudi au stade Kamakuta la journée internationale pour la sensibilisation à la lutte anti-mine. Elle est placée cette année sous le thème « Investir dans la paix, c'est investir la lutte anti-mine ». Le coordonnateur provincial de ce service de l'État fait savoir que son organisation s'engage à mener des actions dans l'éducation au risque des engins explosifs, le déminage humanitaire et la assistance aux victimes. On écoute Serge King Matinda dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Afin d'accomplir nos cinq piliers qui regorgent les CCLAM, mais celui des sensibilisations et assistance aux victimes des restes explosifs des guerres, nous sommes débattis bec et ongles ensemble avec la coordination provinciale pour assister avec le vivre et non-vivre par nos voyants militaires et commandants et soldats des FARDC. En les dotant quelques vivres et non-vivres, il était pour nous l'occasion de les interpeller, de faire une large diffusion aux lignes de front que les mines, les bombes et les restes explosifs des guerres tuent. Alors, parce que nous, les agents et cadres de CCLAM, nous n'arrivons pas en ligne de front. Il sera question pour eux d'élargir ce même échange de la sensibilisation à la lutte anti-mine et sauvegarder la population, les fils et filles congolais, ces trois sur ces sols. C'est là, sous le haut patronage du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemin Chaban-Loko. Nous tenons également à remercier le garant des bons fonctionnements des institutions, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ménage des efforts afin que la terre soit une terre saine, clean et propre et sans danger lié aux mines et restes explosifs de guerre. En tout cas, nous devons tenir compte pour que les mines ne soient plus dans notre province, dans notre pays et partout ailleurs.
À Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, 15 membres du groupe de travail et plaidoyer de la société civile dénoncent l'exploitation illégale de bois par la société chinoise Kokiba Ford dans les territoires de Bolomba, c'est environ 300 km de la ville de Mbandaka. Selon leur déclaration le jeudi à Mbandaka, la société Kokiba Ford continue d'exploiter illégalement le bois pendant que ses contrats de concession ont été résiliés par un arrêté ministériel de l'Environnement depuis le 26 janvier 2024. Askinzi Batayoro explique ce qu'il en est.
Dans une déclaration lue par Fabien Mungunza, président du groupe de travail et plaidoyer de la société civile de l'Équateur, l'entreprise Kokiba Ford utilise son personnel sans contrat de travail et coupe illégalement des bois d'œuvre, ce qui contribue, a-t-il affirmé, à la déforestation dans six villages, notamment Luanga, Ipoko, Likofa, Ifoto, Bokolongo et Elema. La société civile de l'Équateur qualifie de grave l'exploitation illégale de bois à Bolomba. Elle a formulé des recommandations qui doivent, selon elle, s'imposer à l'entreprise chinoise. Fabien Mungunza.
La cessation immédiate et sans condition de toutes les activités de la société Kokiba Ford dans les zones concernées. Le déploiement d'une mission officielle de contrôle afin de constater les faits et d'en établir les responsabilités. La saisie et la mise sous séquestre des produits forestiers issus de l'exploitation illégale. La poursuite de toute forme de complicité ayant permis la continuité de ces opérations en dépit de la résiliation des contrats.
Du côté de l'entreprise, quelques responsables de Kokiba Ford contactés sont restés injoignables pour donner leurs avis. Il faut noter que cette note de plaidoyer de la société civile de l'Équateur est adressée au ministre national de l'Environnement, dont copie réservée au gouverneur des provinces et procureur général près la Cour d'appel de l'Équateur.
Retour au Nord Kivu, l'ONG Appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement en durable, ASCD, appelle à l'abandon de l'utilisation des bouteilles et déchets plastiques comme combustible, notamment pour la cuisson des aliments. Dans une correspondance adressée aux autorités du pays le 9 avril dernier, cette organisation estime que cette pratique présente des graves risques pour la santé humaine et pour l'environnement, et cela peut aller jusqu'au développement des maladies graves. Que retenir de cette alerte, Bernard Denyangui?
Le coordonnateur de l'ICED alerte particulièrement sur les dangers liés à l'inhalation de fumées toxiques issues de la combustion du plastique qui peuvent exposer les populations à des maladies cancérigènes. Faustin Yebone.
Cette mauvaise pratique consiste à utiliser les bouteilles plastiques comme combustible pour préparer les pains par certains boulangers, mais aussi certaines femmes utilisent les déchets plastiques pour préparer les maïs à vendre. Alors cette pratique est hautement dangereuse pour la santé et même pour l'environnement.
Contacté à ce sujet, le chirurgien cancérologue de l'hôpital général La Charité Maternelle de Goma confirme les risques évoqués par l'AICED et appelle de son côté la population à plus de vigilance et de précaution. Docteur Edouard Kahatoua.
On peut citer le cancer bronchopulmonaire. Il a été incriminé autour de 30% de l'ischémie qui sont les cancers du sang dus à cette inhalation de fumée de plastique. La population ignore les risques, bien sûr, mais le mieux serait d'éviter ce genre de pratiques. À défaut du mieux, on devait se protéger.
De son côté, un responsable du service de l'environnement qui a accusé réception de cette alerte de l'ONG ICED estime qu'il est urgent de mettre en place des campagnes de sensibilisation et de promouvoir des alternatives plus sûres.
Actualité internationale.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre un affaiblissement du droit international. Il a dit hier à l'occasion des 80 ans de la Cour internationale de justice, CIJ, célébrée à La Haye. Dans un discours prononcé devant les responsables internationaux, Antonio Guterres a dénoncé la multiplication des violations du droit international à travers le monde. Plusieurs conflits majeurs illustrent cette pression croissante selon africanews.fr. La guerre en Ukraine, les tensions à Gaza, le conflit au Soudan, encore des crises au Moyen-Orient. Le chef de l'ONU a souligné que ces situations fragilisent l'ordre mondial et mettent en péril le mécanisme de règlement pacifique des différends.
L'invité.
Nous recevons le député national du Sud-Kivu, Olive Mudekereza Namigabe. Il vient de participer à la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'ossement au Maniema. Il nous partage son expérience et donne quelques orientations pour matérialiser la vision de la province sur la relance agricole au Maniema. Olive Mudekereza Namigabe s'entretient avec Florence Kizalunga.
Olive Mudekereza Namigambe, bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau, vous aussi vous avez pu participer. Quelle expérience avez-vous par rapport à la province du Maniema?
Une expérience très forte parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de potentialités ici au Maniema. Il y a tous les domaines, comme vous venez de les citer. Il fallait même y ajouter qu'il y a aussi la mine qui marche ensemble. Mais spécialement l'agriculture, l'environnement, c'est ici où il y a les réserves. Il y a des forêts, il y a tout. L'agriculture, c'est ici où il y a un potentiel. Madame, si vous demandez l'expérience, j'étais président de l'AFEC pendant plus de 10 ans. En 2006-2007, on a fait l'état des lieux de l'économie de la RDC et on est venu ici au Maniema et on a vu que le Maniema regorgeait plus de potentiel que toutes les autres provinces. Quoi? Ici, nous, on achetait du riz ici au Maniema, à Kasongo. Kasongo produisait environ plus de 6000 tonnes à ce moment-là. Ici, au Maniema, c'est là où se trouve le grand gisement de castérite en Afrique centrale. Ici, il y a tous les produits pérennes. Et vous savez, madame, le Maniema est presque au centre. Si vous êtes ici à Kindu, vous avez 45 minutes pour atteindre Kasai, 45 pour atteindre Kisangani, pour atteindre Bukavu, pour atteindre Goma. Donc, sur le plan même touristique, Maniema est au centre. Vous l'avez suivi comme moi. On a démontré que le Maniema possède plus de 5 rares, espèces rares qui n'existent pas nulle part au monde, sauf ici au Maniema.
Alors, Maniema a perdu sa robe de grenier agricole. Honorable, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette robe puisse revenir?
Je crois qu'avec le gouverneur Moussa, vous l'avez suivi, je crois qu'on va lui faire réhabiller encore une nouvelle robe. Le ministre de l'Agriculture a dit qu'il va amener des semences bien améliorées. Et on va même réhabiliter ce qu'on disait Capsa à l'époque belge. Capsa, c'était des centres de production de semences. Et c'était, il y avait 3 centres au Maniema. Toute la République démocratique du Congo, aucune des provinces qui a eu 3 centres. Kasongo, vers Lobutu et ici au centre. On va réhabiliter ces centres pour produire encore de nouveau des semences améliorées, modernes. Et le gouverneur a dit lui-même qu'il va d'ailleurs créer une société provinciale pour cultiver 3000 hectares de cacao, café et palmiers à huile. Le blocage du Maniema, c'est les routes d'évacuation, la connectivité. Si vraiment le gouvernement, et je l'espère, ça peut se faire, nous prions nous tous que la paix revienne et la politique du chef de l'État ramène la paix. Et lui-même, il a le souci que le sol puisse faire la revanche sous le sous-sol. Et au Maniema, il y a cette opportunité. Si demain, il passait ici, il va voir ce qui se fait maintenant au Maniema pour encourager l'initiative provinciale. Si on ouvre la route vers Kasongo, ça va jusqu'au Sud Kivu. Vers Lubutu, ça va vers Kisangani. Et le route vers Katanga. Et les chemins de fer, compris réhabiliter, renforcer la SNCC pour connecter le Tanganyika, Kalemie avec le chemin de fer. Pour réhabiliter, renforcer Ubundu, Kisangani. Je crois que l'émanement deviendra la locomotive économique de la RDC.
Alors, un petit conseil aux autorités provinciales pour que cette vision se réalise ou bien se matérialise.
Le conseil qu'on peut donner aux autorités, c'est d'éligner. L'union fait la force, que les gens se mettent ensemble. Nous voudrons que le maniement puisse aussi nourrir encore, comme d'habitude, les autres provinces. Et je crois que la politique actuelle, je l'ai conseillé aux autorités pour dire, quand vous allez créer une société au maniement, il y a une société minière, une société agricole, il faut associer les fils et les filles du maniement pour avoir des parts dedans. Et j'ai même plaidé pour les jeunes entrepreneurs, pour créer les millionnaires, pour créer les milliardaires. J'ai donné les modèles du Côte d'Ivoire, les modèles du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer des jeunes millionnaires? On a dit, ok, on vous donne un hectare, on laboure pour vous, on sème pour vous. Et les jours de récolte, on vous donne les fruits de récolte d'un hectare. Et c'est comme ça, et vous commencez par là. Il faut aussi faire cela. S'il y a 3000 hectares, il faut sélectionner, faire un concours. Les jeunes dynamiques qui s'investissent, les femmes et les jeunes, on dit voilà, on laboure pour vous, le tracteur est là, on sème pour vous, la semence est là. Les jours de récolte, on met ensemble, on va vendre et on vous donne un faux, c'est votre faux de roulement. Et on a vu Fogec, on a vu les gens de l'assurance, on a vu le FAO, on a vu plusieurs bailleurs qui étaient à la conférence. Il faut donner des crédits. Il faut que les pays puissent avoir une banque de développement agricole. Il faut avoir un fonds de garantie. On ne peut pas faire l'agriculture sans financement, sans crédit. Et l'autre chose, il faut supprimer les barrières non tarifaires. Et le maniement, je crois, il a cette opportunité aujourd'hui avec ses richesses, ses potentiels dans tous les axes, dans les 5-6 territoires, de les développer à devenir une réelle richesse. Demain ou après-demain, nous entrons dans la libre zone d'échange, ZELACAF. Nous devons avoir quelque chose à présenter aux autres pays africains. Nous voudrons que demain, les touristes aussi commencent à venir ici. C'est ça le développement.
Olive Mondé-Guereza Namegambe, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Olive Mondé-Guereza, députée nationale élue du Sud Kivu. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par André Mongo, avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci de votre attention. Bon week-end.